Bienvenidos a este informativo de Radio France International.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de Radio France Internationale. Ce soir avec vous, Isabelle Martinetti de la rédaction en anglais.
Hello.
Il sera question de la francophonie en Afrique de l'Est avec la création du premier village francophone au Kenya. Pour la rédaction en ukrainien, Xenia Zornokle. Pour la situation des réfugiés ukrainiens en Europe et Tim Bimba de la rédaction Fulfudé.
Sal Minima.
Avec la préparation des élections législatives au Sénégal. Tout d'abord en France, ce qui fait la une de l'actualité, c'est le procès de Mazan, une femme, Gisèle Pélicot, que le mari droguait pour qu'elle soit violée par des inconnus. Son calvaire a duré 10 ans. Isabelle, plus d'une trentaine de médias étrangers suivent les audiences, parmi eux des journalistes anglais et américains.
Oui, dès juin 2023, la presse anglaise s'était intéressée à cette affaire, et notamment le Daily Mail, qui avait publié un article assez détaillé avec une photo de Dominique Pélicot, le décrivant comme un grand-père aux cheveux blancs. Et depuis le début du procès, plusieurs correspondants de la BBC et du Guardian, notamment, ont été envoyés à Mazan, le village du sud de la France où habitait le couple Pélicot, pour y interroger les habitants. Et plusieurs tabloïds anglais ont aussi pris des photos de la maison pour les publier.
Et aux États-Unis, le New York Times consacre un dossier entier à ce procès des viols de Mazan.
Oui, et l'autre grand quotidien américain aussi, le Washington Post, il explique, lui, qu'il n'a pas l'habitude de nommer les victimes de crimes sexuels, mais que dans ce cas précis, Gisèle Pélicot a demandé à être identifiée par son nom de femme mariée. Elle a aussi demandé que le procès se déroule en audience publique parce que, je cite, elle voulait que le monde sache ce qui lui était arrivé. Le New York Times écrit qu'en ouvrant les portes au public, Madame Pélicot a permis de voir les profils banals et normaux des hommes accusés. Dans un article posté la semaine dernière, le New York Times a qualifié Gisèle Pélicot d'héroïne féministe. Enfin, le Guardian, dans un article publié cette semaine, se demande si ce procès choquant peut contribuer à faire évoluer l'attitude des Français à l'égard des violences sexuelles et faire changer les lois sur le consentement et le viol en France. Et peut-être ailleurs, conclut l'article.
Tim Bimba, cette affaire en rappelle une autre qui a eu lieu en Guinée en avril 2023. C'est le procès de l'affaire Massila. C'est une jeune femme de 25 ans violée par des prétendus médecins. Elle est morte. Il y a eu un procès à Conakry. Alors avant d'évoquer l'émoi suscité à travers la Guinée, rappelez-nous le fond de cette affaire.
Philippe, c'était courant juillet 2021. Mawa Sila souffrait d'un simple mal d'estomac. Et comme toute personne malade, elle cherche donc à voir un médecin. Et malheureusement, pour la jeune secrétaire, elle tombe sur un violeur ayant clandestinement ouvert une clinique médicale dans son quartier d'Antas, c'est en Haute-Balier de Conakry. Et ce jour, elle sera reçue par un certain Patrice Lama, qui était le médecin d'accueil, qui finira donc par la droguer avant d'abuser d'elle. Et de cet habit sortira une grossesse qu'elle découvre. Un mois plus tard, c'est alors qu'il décide de retourner voir Patrice Lama, qui reconnaîtra l'abus. D'après plutôt les avocats de la victime, voulant mettre fin à cette grossesse qu'elle n'a jamais désirée. Mahawa Sila se fera violer encore à plusieurs reprises par ce même Patrice Lama avec d'autres médecins, dont Daniel Lama et Célestin Milimono. Et malade, la jeune femme finira par s'extraire de l'emprise de ses prétendus médecins pour se rendre à l'hôpital. C'est à partir de là que cette affaire éclate, Philippe.
Timima, que sont devenus les bourreaux de Mme Sila?
Au fait, ces bourreaux, il y avait eu une forte mobilisation des organisations féminines et des avocats. Donc une mobilisation qui a conduit à leur condamnation à des lourdes peines allant de 15 à 20 ans d'emprisonnement ferme. Un verdict salué par le défenseur des droits des femmes, Dou Moussa Yeroba, présidente de l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains. Pour elle, le procès a permis de libérer la parole à de nombreuses victimes de ces genres de pratiques, car Moussa Yeroba explique que le cas Mawa Sila n'est pas isolé. Il existe de nombreuses Mawa Sila en silence. Moussa Yeroba espère plutôt que les lourdes peines prononcées par les juges à l'encontre de ces pseudo-médecins pourront dissuader d'autres violeurs.
Alors, il n'y a pas que de sordides faits divers dont sont victimes certaines femmes. Les guerres sont également des épreuves pour certaines d'entre elles. Xenia, quelle est la situation des Ukrainiennes face aux atrocités liées par le conflit Russie-Ukraine?
Alors les violences sexuelles se sont intensifiées. On parle de viols systématiques utilisés comme armes de guerre par les forces russes, visant à humilier et briser psychologiquement les victimes. Des femmes, mais aussi des enfants, sont prises au piège de cette violence. Un cas particulièrement choquant concerne une fillette de 12 ans, violée par un collaborateur russe, qui a ensuite donné naissance à un enfant. Il est vrai que pas toutes les victimes osent parler. Là, je peux citer le rapport du Centre polonais de documentation de crimes russes en Ukraine, qui justement documente des cas de violences sexuelles commises par les forces russes sur les territoires occupés. Ce rapport contient des témoignages de femmes ukrainiennes et comme il stipule, comme il confirme, ces violences ne visent pas seulement à infliger de la douleur physique, elles sont utilisées comme un moyen de domination et de contrôle. La situation est d'autant plus grave que ces actes sont souvent commis en toute impunité, sans que les victimes puissent obtenir justice.
Et quelle est la situation des femmes qui ont réussi à fuir cette guerre ?
Alors pour celles qui se sont réfugiées dans les régions de l'ouest de l'Ukraine ou en Europe, le quotidien est encore plus compliqué. Beaucoup d'entre elles subissent des violences domestiques, exacerbées par le stress et l'incertitude liée à la guerre. Et en Ukraine, aujourd'hui, on compte environ 15 millions de personnes en besoin d'aide humanitaire. Donc 56% sont des femmes et des filles. On rencontre des cas de traite humaine, de prostitution forcée, d'esclavage. Ces cas sont enregistrés dans plusieurs pays européens, mais l'actualité de guerre est tellement lourde que les cas de viol ou de violences faites contre les femmes passent quasi inaperçus en Ukraine.
Vous écoutez Radio France Internationale, c'est Accent du Monde.
20 degrés à Paris.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Au Sénégal, il y aura des élections législatives le 17 novembre. 41 partis politiques, coalitions, entités indépendantes ont été validés par la Direction générale des élections. Mais la liste définitive est attendue ces prochains jours. Elle sera rendue publique par le Conseil constitutionnel qui examine en ce moment les recours déposés par les entités recalées. Alors Tim Bimba, vous êtes en direct de Dakar, de la rédaction Felfudé. Parmi les têtes de liste à ces élections figure l'ancien président Macky Sall.
Oui, Philippe, même si la rédaction, c'est Fulfulde. Pour répondre donc à votre question, oui, c'est lui qui dirige la coalition Takualu Sénégal, entendez s'unir pour aider le Sénégal en Wolof. Il a juste fallu 6 mois à l'ancien président pour revenir dans l'arène politique. Mais la question ici, c'est est-ce qu'il était véritablement parti, car il est resté président de l'APR après son départ du pouvoir et son installation au Maroc, d'où il a continué d'ailleurs à diriger le parti qu'il a mené au pouvoir en 2012. L'ancien chef d'État mise gros dans ses élections car pour y concourir, il a dû renoncer à ses fonctions d'envoi spécial du Pacte de Paris pour les peuples et la planète, Philippe.
Et cette candidature de Macky Sall suscite beaucoup de réactions à travers le Sénégal, hein, Timila.
Exactement. S'il y a des acteurs politiques qui s'interrogent sur ce retour qu'ils trouvent hâtif, ses proches applaudissent de deux mains la décision donc de celui qui a dirigé le Sénégal pendant 12 ans. Pour eux, cette expérience politique et administrative est un atout solide qui leur permettra de gagner cette compétition électorale. Par exemple, pour Aboubakri Diallo, il est ancien député de l'APR, donc le parti de Macky Sall. Seul Macky fait consensus, on va l'écouter.
Macky Sall, en fait, ko kanko tan wawata wadde réunir tout le monde autour de lui. Parti on wadi tiadele fede won wiyobe so o wada
am. Que dit Aboubakri Diallo?
Au fait, Aboubakri Diallo explique qu'il y a eu des dissensions au sein du parti quant au choix de la personne qui devait diriger la liste des Takualu Sénégal. Beaucoup de candidatures avaient été rejetées par certains responsables du parti, indique donc Aboubakri Diallo. Seul le président Macky Sall est capable de réunir tout le monde, c'est ce qu'argumente donc Aboubakri Diallo.
Dites-nous la raison pour laquelle Macky Sall a accepté de revenir aussi rapidement dans l'arène politique, sachant qu'il est parti dans des circonstances assez particulières, hein.
Philippe, c'est une question difficile à répondre. Nombreux parmi ses opposants d'alors l'avaient accusé de vouloir se présenter pour un troisième mandat. Son hésitation jusqu'à la dernière minute combinée aux ennuis judiciaires de son plus grand rival d'alors, c'était Ousmane Sonko, avait mis le pays sous tension avec de nombreuses manifestations violentes. Beaucoup de personnes avaient été tuées, de nombreux biens vandalisés. D'ailleurs, une association des victimes de son régime a vu le jour. Le président Macky Sall avait fini fini par annoncer qu'il ne sera pas candidat, mais les élections avaient tout de même été reportées de quelques semaines. Et son candidat avait été battu par Bassirou Diomaye Faye, l'actuel plutôt président, qui était le candidat donc, du principal parti d'opposition. Et beaucoup d'analystes voient donc et Macky Sall revanchard qui n'a jamais digéré son départ, je cite, forcé du pouvoir. Certains analystes, à l'image de Bangali Diallo, politologue sénégalais, estiment que l'ancien chef d'État cherche à rectifier des erreurs commises à la fin de son dernier mandat en cherchant à reconquérir le pouvoir. On va l'écouter.
Aidez-nous à comprendre ce que dit Bangali Diallo.
Le politologue assure Philippe que le choix de Macky Sall pour conduire la liste de sa coalition n'est pas une surprise, car il n'a jamais quitté le terrain politique. Il a continué de diriger son parti depuis l'extérieur, indique Bangali Diallo, qui estime que l'ancien chef d'État cherche à revenir au pouvoir pour corriger des erreurs qu'il a commises vers la fin, surtout de son régime. La manière dont la dernière présidentielle a été organisée paraît donc avoir été mal appréciée par Macky Sall.
Dites-nous un mot d'un de ses principaux adversaires à Macky Sall.
Oui, son éternel rival qui est Ousmane Sonko, qui dirige la liste de la coalition au pouvoir. Et pour Bangali Diallo, le résultat de Macky Sall à ces élections dépendra beaucoup plus de sa capacité à contrecarrer la communication de l'actuel régime qui a peint en noir toutes ces années de gestion. On va l'écouter.
Que faut-il comprendre, Timiba?
Bangali Diallo indique que si le président Macky Sall parvient à défendre sa gestion en montrant aux Sénégalais que la communication du régime Diomaye sur sa gouvernance n'est pas conforme à la réalité, il pourrait reconquérir les cœurs des Sénégalais. Mais il assure tout de même que la tâche ne sera pas facile vu la réalité politique actuelle du Sénégal.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur cette campagne électorale au Sénégal. Vous écoutez RFI. C'est une des conséquences de toutes les guerres. Il y a les victimes et tous ceux, toutes celles qui fuient les combats pour ne pas mourir. Avec l'invasion de la Russie en Ukraine, l'Union européenne a activé un mécanisme spécial de protection des réfugiés ukrainiens. Première question, Xenia Zornoclé, de la rédaction en ukrainien. Combien de personnes sont concernées aujourd'hui?
Alors Philippe, aujourd'hui on compte 4 300 000 personnes qu'en Union européenne. Bien entendu, le nombre d'Ukrainiens varie d'un pays à l'autre et la Pologne et l'Allemagne en accueillent le plus grand nombre. La France a délivré 165 000 permis de séjour dans le cadre de ce système. Et avec le statut de protection temporaire, les gens doivent prouver d'abord qu'ils ont quitté le pays après le 24 février 2022. Mais ensuite, ils peuvent aussi faire les allers-retours entre le pays d'accueil et l'Ukraine. Ils ont le droit de travailler, d'étudier. Ils ont le droit à la sécurité sociale. Ils bénéficient des aides sociaux et du logement social si le pays est en mesure d'en fournir. Cependant, chaque pays offre des niveaux d'aide sociale, d'intégration et d'accès à l'emploi différents.
Alors, initialement, le mécanisme devait durer 3 ans et se terminer en mars prochain.
Oui, tout à fait. Mais en juin, le Conseil de l'Europe a décidé de le prolonger jusqu'en mars 2026. En même temps, le Danemark, l'Italie et la Pologne proposent déjà aux Ukrainiens de passer à des visas de travail ou d'études, voire d'obtenir le statut de réfugié pour un séjour plus durable. La France offre également la possibilité aux Ukrainiens de transformer leur statut de protection temporaire en carte de séjour étudiant, salarié, commerçant, etc., bien à condition de répondre à tous les critères requis pour l'obtention de ce statut.
Est-ce qu'on peut dire que l'Europe commencerait à fermer ses frontières aux Ukrainiens?
Il y a de nombreux débats selon les pays. La Norvège, la Hongrie, la République tchèque ont limité l'accès aux les droits sociaux. Le 27 septembre, le gouvernement norvégien a annoncé qu'il cesse d'accorder automatiquement l'asile à tous les Ukrainiens. Et désormais, les demandes de personnes originaires de l'ouest de l'Ukraine, jugées sûres car éloignées du front, seront traitées au cas par cas. En République tchèque, le gouvernement a arrêté de couvrir leurs frais de logement depuis le 1er septembre et a restreint l'accès aux logements sociaux pour les nouveaux arrivants.
Comment expliquer plus généralement tout cela?
Alors, Voilà plusieurs raisons. Les Norvégiens ont souligné que certains réfugiés sont des hommes en âge de combattre, alors que l'Ukraine a du mal à renforcer ses troupes. De leur côté, les Tchèques dénoncent l'arrivée croissante d'hommes ukrainiens en âge de travailler. La République tchèque soupçonne que ces hommes sont des migrants économiques. Le Royaume-Uni affirme que certains Ukrainiens se présentent comme réfugiés, mais sont en fait des travailleurs migrants qui résidaient déjà dans d'autres pays. Le gouvernement souhaite réduire l'immigration de travail.
Alors, ces réfugiés, est-ce qu'ils ont le droit de travailler ?
Oui, en France, par exemple, seulement 10% de réfugiés travaillent, alors que dans d'autres pays, ce chiffre peut atteindre jusqu'à 75%. Et d'ailleurs, en République tchèque, les recettes fiscales et les cotisations sociales payées par les réfugiés ukrainiens ont déjà dépassé les dépenses budgétaires consacrées à leur accueil. Et en Pologne, les réfugiés ukrainiens contribuent depuis longtemps plus au budget national que ceux que l'État dépense en aide. Par exemple, en été 2023, seuls 7% de réfugiés vivaient exclusivement grâce aux aides du gouvernement polonais, tandis que la grande majorité des familles ukrainiennes soutenaient elles-mêmes, gagnant 80% de leurs revenus par le travail. Ils ont un impact positif sur l'économie du pays, un impact qui ne fera que croître à long terme.
En France, il existe une école ukrainienne du samedi. Elle est fréquentée par la diaspora depuis plus de 70 ans.
Oui, et cette année, une grande partie des élèves sont des enfants réfugiés. Il y a également des écoles ukrainiennes organisées par l'ambassade d'Ukraine avec le soutien du rectorat de Paris pour les enfants de 3 à 18 ans avec un programme identique à celui des écoles en Ukraine. Ainsi, en France, on compte aujourd'hui environ 30 centres éducatifs et les cours se tiennent les après-midi et les samedis. En complétant les cours dans les écoles françaises, les élèves peuvent ensuite passer le bac ukrainien ou obtenir des certificats, ce qui leur permet de poursuivre leurs études en Ukraine par la suite, dans le futur s'ils reviennent, ou d'intégrer une université en France. L'année dernière, Paris a accueilli 700 élèves ukrainiens pour les épreuves du bac ukrainien. Et certains venaient même des pays voisins.
Xenia Jean-Norclé de la rédaction en ukrainien de RFI. Revenons maintenant sur le Festival de la Francophonie. C'était la semaine dernière à la Gaîté Lyrique à Paris. Isabelle Martinetti de la rédaction anglophone, vous y étiez et vous avez rencontré la personne qui a créé le premier village francophone au Kenya.
Oui, c'est bien ça. J'ai rencontré Chris Mburu, qui est coordonnateur de l'ONU au Congo. Il est avocat, diplômé de l'Université d'Harvard aux États-Unis. Et c'est pendant qu'il était en mission pour l'ONU en République démocratique du Congo qu'il a commencé à apprendre le français. Puis il a décidé, par ses propres moyens, de créer un village francophone à Mita Hato au Kenya, le village où il est né et où il a grandi.
I want the kids in my village to learn, get this advantage, they can get jobs in francophone countries.
Qu'est-ce qui vous a été dit ?
Alors, il dit qu'il souhaite que les enfants de son village aient cet avantage de parler français pour pouvoir travailler dans des pays francophones et aller à l'université. Il dit aussi qu'au Kenya, la plupart des enfants parlent déjà trois langues. Leur langue maternelle, le swahili, qui est la langue officielle, et aussi l'anglais. Et avec le français, ça fait quatre langues. Et pour lui, c'est un avantage très important pour le monde aujourd'hui.
Alors, il était invité à Paris pour parler de cette initiative. Mais est-ce qu'il a d'autres projets pour la suite au Kenya ?
Oui, il est très optimiste pour le futur et le développement du français au Kenya.
You know, I really would hope that the children in my village would learn this language and use that village.
Bah, il espère que cette initiative va servir en fait de prototype et d'expérimentation pour montrer comment le français peut être développé dans tout le Kenya. Il dit aussi qu'on parle plus français en Afrique que l'anglais finalement. Et que donc c'est très important que les gens apprennent le français selon lui pour l'intégration entre les différents pays africains et que les personnes puissent communiquer entre elles.
Alors, est-ce que Chris Mburu regarde au-delà, dans l'ensemble de l'Afrique de l'Est ?
Oui, alors il a une vision beaucoup plus globale en Afrique de l'Est, et notamment parce que plusieurs pays voisins sont francophones.
Two years ago, the Democratic Republic of Congo became a member of the East African Community.
Aidez-nous à comprendre.
Alors, il dit qu'il y a deux ans, la République démocratique du Congo est devenue membre de la communauté d'Afrique de l'Est. Donc, il y a 100 millions de personnes dans ce pays, dont beaucoup parlent seulement français. Donc, pour lui, il y a donc de nombreuses opportunités en termes de commerce, d'éducation et de carrière. Et il ajoute enfin qu'il est très important que l'enseignement du français soit encouragé par les différents gouvernements, mais aussi qu'ils doivent essayer d'adhérer à l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie.
Isabelle Martinetti, de la rédaction en anglais de Radio France Internationale. C'était Accent du Monde, à retrouver bien évidemment sur le site internet et sur l'appli RFI.